CJSO 101.7. Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Tête première, l'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première.
Bonjour, ici Denis Marion. On a une nouvelle émission de Tête première aujourd'hui avec des sujets qui devraient toucher à nos préoccupations dans la région, ici autour de Sorel-Tracy. Trois sujets, trois invités. Un premier sujet, on a eu des informations sur l'activité immobilière au Québec en 2022. On va regarder avec Michael Guérin, pardon, agent immobilier dans l'équipe Charbonneau-Chartrand, ce que ça veut dire chez nous. On a eu aussi des indications sur l'augmentation de la population avec Mario Fortin, directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi. On va aussi regarder ce que ça veut dire pour nous dans le coin ici. Puis, on ne peut pas passer à côté du fait que nous sommes en hiver. On a eu un peu de neige là, dans les derniers jours. Donc, avec Benoît Simard, le directeur des loisirs de Sorel-Tracy, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour aimer l'hiver.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Accueillons!
La tournée des anciens Canadiens sera de passage à l'Aréna de Contrecoeur le dimanche 5 février à compter de 14h. Procurez-vous vos billets pour assister à cette partie à l'Aréna de Contrecoeur ou auprès d'un des organismes qui bénéficiera de cette activité bénéfice, soit la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, la Fondation du cégep de Sorel-Tracy, la Fondation Centre d'accueil Contrecoeur et le Club de soccer de Contrecoeur. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. La tournée des anciens Canadiens à l'Aréna de Contrecoeur, une invitation de CJSO.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Tête première est une présentation de Lucier. Développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors, on a appris cette semaine que les ventes de maisons au Québec, d'abord, dans un premier temps, les ventes de maisons ont chuté entre 2021 et 2022. C'est l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec qui nous donnait ces chiffres-là. Il semble que ce soit aussi le cas dans la région ici, à Sorel-Tracy et autour, avec Michael Guérin, qui est agent immobilier dans la région, dans l'équipe Charbonneau-Chartrand. On va essayer de regarder un peu qu'est-ce que ça veut dire, peut-être aussi d'où on vient. Qu'est-ce que c'était avant la pandémie? Quel a été l'impact de la pandémie? Est-ce qu'il y a des enjeux avec les taux d'intérêt sur les hypothèques? Donc, on va essayer de démêler ça un peu puis de voir quel regard Michael Guérin, qui est agent immobilier, pose sur tout ça. Michael, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, comme agent immobilier, là, ce que je comprends, c'est que tu es en affaires depuis un peu plus de 5 ans. Qu'est-ce qu'on a traversé au cours des dernières années?
Bien, je vous dirais tout d'abord qu'on a vécu vraiment un très gros changement au niveau de la région. Avant la pandémie, c'était beaucoup plus difficile. C'était surtout des achats locaux, des gens de Sorel qui achetaient des propriétés à Sorel ou à les environs. La pandémie a fait en sorte que beaucoup de gens ont fait du télétravail. On est quand même dans une région qui est assez favorable pour les acheteurs de l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un périmètre de moins d'une heure de Montréal, sans trafic. On se croise les doigts. Pour l'instant, on n'en a pas encore comparativement dans le secteur de Saint-Bruno, Chambly, tout ça. Alors, c'est ce qui a fait en sorte que ça a vraiment apporté beaucoup d'acheteurs dans le secteur. Parce que je vous dirais que durant la pandémie, là, sur 10 clients, j'en avais à peu près 8 qui étaient des gens de l'extérieur qui achetaient. C'est surtout eux aussi également là, qui ont fait en sorte qu'on avait une grosse surenchère parce que, veux pas, les maisons, ils étaient quand même relativement abordables dans le secteur. Puis dès qu'on est arrivé, bien, eux, ils étaient habitués de payer des loyers. Les propriétés étaient tout simplement plus chères. Alors, eux, il y avait vraiment un plus gros capital quand ils sont arrivés. Puis le fait d'avoir un grand terrain, d'avoir des piscines, des garages et tout ça, pour eux autres, c'était pratiquement inaccessible. Même quand on va directement dans le secteur de Boucherville, Saint-Bruno, ça reste des villes encore très dispendieuses, similaires à la grande région de Montréal.
Globalement, d'ailleurs, les gens, ils viennent d'où? Ce que tu as pu constater, les gens, ils nous arrivaient d'où?
Les gens y arrivent la plupart du temps de Longueuil, Brossard. C'est vraiment un secteur qui s'est envenu de plus en plus vers ici. Puis on a beaucoup remarqué aussi des jeunes. Les jeunes de Boucherville, que malheureusement, mais les propriétés, on parle de maisons prix en moyen de 550-600 000. Mais veux, veux pas, même si c'est des jeunes qui peuvent faire des bons salaires, ça reste que c'est des propriétés qui n'est pas à leur portée, tout simplement. Alors, ils se sont déportés vers ce secteur de Contrecoeur, Trécy, Sorel et tout ça.
En fait, ce qu'on dit, c'est que des gens qui ont vécu dans un quartier, mettons, à Boucherville, sont pas en mesure de rester dans le quartier où ils ont grandi, par exemple. Là. C'est ce que je comprends.
Exactement.
Et là, ils se sentent attirés vers d'autres, dont chez nous, parce que les conditions semblent plus intéressantes. Je trouve ça intéressant, là, les terrains, les piscines, l'espace. Est-ce que ça, c'est resté pendant un bon moment? Combien de temps ça a duré, cette période-là, où les gens étaient prêts à payer plus même que ce que les gens demandaient, ce que les propriétaires demandaient comme prix?
Ça a vraiment duré, je vous dirais, vraiment la grosse période de la pandémie, dès qu'on avait des confinements, des choses comme ça, parce que je voudrais qu'actuellement, il n'y en a plus de surenchères, ou en tout cas, dans un cas plus particulier, peut-être, mais en général, les propriétés vont se vendre le prix demandé peut-être un petit peu à la baisse. Fait que c'est sûr que oui, effectivement, là, concernant votre question tout à l'heure, est-ce que les prix des maisons ont chuté? Ils n'ont pas chuté. Les prix ont resté les mêmes, les prix d'affiche. C'est juste qu'on n'a plus de surenchère.
Oui, je comprends. Il y a de la place pour la négociation, en fait.
Exactement.
Okay. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que le prix médian des maisons dans la région est quand même assez élevé par rapport à ce que c'était avant la pandémie. On parle d'un prix médian autour de 300 000 $ donc ça veut dire que c'est le... Il y a quelques maisons qui sont plus que 300 000, quelques maisons qui sont moins que 300 000, mais c'est quand même... Est-ce que j'ai raison de penser que c'est plus élevé que ce qu'on avait avant 2020?
Oui, je vous dirais qu'avant la pandémie, là, quand les gens avaient un budget d'à peu près 200-250 000, on réussissait quand même à avoir une belle maison avec certains travaux effectués, un beau terrain. Maintenant, je vous dirais que dans la fourchette de 200 000, ça commence à être un petit peu plus difficile. On va avoir une propriété certainement avec des travaux ou qui va être moins au goût du jour. Alors, tandis que là, 300 000, 350 000, oui, effectivement, là, on retrouve les mêmes maisons qu'on avait un petit peu avant la pandémie. Par contre, je pense que c'est la normalité des choses que les biens prennent de la valeur, parce que je vous dirais, si on recule à beaucoup plus loin, quand on a regardé les gens qui achetaient des propriétés dans les débuts 2010, ils revendaient juste un petit peu avant la pandémie, ils faisaient un 10-15 000 gros maximum de profit, qui étant qu'à moi, l'immobilier était quand même un investissement, même si c'est un achat qui est à la base sentimental pour sa famille. C'est pas normal de pas pouvoir faire d'argent pratiquement là, avec une propriété. Là, c'est un investissement qu'on fait. Là.
Et d'ailleurs, ce qu'on nous dit, c'est que le fameux prix médian là, de 300 000, il serait de 25 % plus élevé en 2022 qu'il était en 2021, mais plus important encore, il est 98 % plus élevé que ce que pouvait coûter une maison avant 2020. Donc, il y a vraiment un avantage pour les vendeurs à ce moment-là. Là. Ce que les vendeurs ont vécu est très avantageux.
Oui, exactement. Puis je pense qu'on était rendu là. Ce que je vous dirais depuis, comme je vous disais, plusieurs années, ça n'avait pas monté. Fait que c'est rendu la normalité des choses. Est-ce que dans les acheteurs actuels, est-ce qu'ils sont un petit peu plus défavorisés avec un marché comme ça? Tout à fait. Mais est-ce qu'eux vont connaître leur lot également de succès à la revente de leur propriété dans une quelques années? Je vous dirais sûrement que oui. Dans l'histoire de immobilière au Québec, c'est jamais arrivé là, que des propriétés prennent ou diminuent.
Perdent de valeur.
Exactement.
Moi, j'ai une question sur... bon, évidemment, on va regarder deux secondes ce que veut dire l'augmentation des taux d'intérêt, des taux sur les hypothèques. Mais on va regarder aussi un petit peu le profil des acheteurs, essayer de voir un peu qui, avec qui vous avez travaillé comme acheteurs, là, ceux qui viennent. Mais mm-hmm. d'abord, les taux d'intérêt. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une raison de la baisse des ventes?
Je vous dirais que je suis un petit peu mitigé parce que oui, effectivement, c'est sûr que quelqu'un qui avait un budget un petit peu plus limité, malheureusement pour lui, c'est nullement sans faveur. Mais par contre, je vous dirais que le marché est encore très actif. Pas plus tard que cette semaine, j'ai vendu quand même 3 propriétés okay. à des fourchettes de prix différents. Là, on parle d'une propriété de 300 000 à une d'au-dessus de 500 000 dans la région de Sorel. Fait que c'est pas vraiment quelque chose qui a bloqué. Est-ce que ça l'a fait un ménage, puis les gens qui étaient plus ou moins certains vont attendre à plus tard, peut-être à cet été? Oui, ça l'a sûrement reporté des projets, mais les gens qui avaient besoin, est-ce que soit ils ont vendu leur propriété, puis ils savent qu'ils ont un deadline pour retrouver quelque chose, mais je pense que ça les a motivés davantage là, à trouver. Puis justement, ça l'a laissé une place à la négociation, puisqu'on avait moins d'acheteurs, là, comme je vous dis, les propriétés se vendent parfois sous le prix demandé.
Je vous rappelle qu'on est avec Michaël Guérin, qui est agent immobilier ici dans la région. Les gens qui se sont installés, qui ont au cours des 2 dernières années, qui ont acheté des maisons, tu as souligné le fait qu'il y avait des jeunes dans ça. Mm-hmm. Globalement, ils ont quel âge? Ils ont quoi comme préoccupation? Ils travaillent ici? Ils travaillent plus près de Montréal? Est-ce qu'on a une petite idée de ce que ça peut être comme profil?
Je vous dirais, c'est sûr que de plus en plus, malheureusement, le fait que les propriétés y ont monté, il y a eu de la surenchère, c'est plus des jeunes de début 20 ans qui vont acheter des propriétés. Ils vont rester normalement en appartement plus longtemps. Je vous dirais, c'est plus mi-vingtaine à la fin vingtaine qui vont acheter leur première propriété maintenant. C'est des gens qui travaillent, je vous dirais, un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi à faire des transferts d'emploi dans le secteur. Mais il y a beaucoup de gens qui vont faire de la route aussi, là, puis qui vont travailler soit Centre-Ville de Montréal, Longueuil, secteur du 10-30, ces choses-là. Mais comme je vous dis, là, l'effet que la route, elle se fait très bien, qu'on n'avait pas de trafic jusqu'à notre hauteur de la 20, dans le secteur Boucherville et Sainte-Julie. Mais ça a donné une faveur aux jeunes de pouvoir s'en venir, de payer une maison soit plus grande, plus rénovée, pour le même prix que qu'est-ce qu'ils auraient pu acheter, exemple.
Beaucoup de premiers acheteurs?
Oui.
Oui?
Oui, beaucoup de premiers acheteurs.
Donc, des gens qui comme de fait, n'avaient pas réussi ou pas n'étaient pas rendus là dans leur vie à acheter une première maison. Donc, on accueille des premiers acheteurs aussi, là.
Oui, je pense que c'est parfaitement favorable parce que je veux pas que ça va créer des familles, ça va créer des gens qui vont être dans la région. Fait que je pense que c'est quand même un bon avantage, là. C'est des gens qui achètent local, les jeunes, beaucoup. Ils s'investissent dans leur communauté. Fait que je pense que c'est tout en notre honneur là, de pouvoir accueillir les nouveaux acheteurs de d'autres régions pour qu'on leur fasse de la place par chez nous.
Je me demande comment ils réagissent. Est-ce qu'ils voient juste la maison ou ils voient l'environnement dans lequel ils évoluent? Ils voient le fleuve? Ils voient ce que nous, on voit, là, le fleuve, la rivière Richelieu, la rivière Amasca pour ceux qui sont plus loin, les îles, etc. Est-ce que ça compte?
Oui, beaucoup. Beaucoup, parce qu'ils voient qu'on a quand même beaucoup de commerce. Ils voient qu'on a le parc des Grèves, qui est un secteur c'est magnifique pour aller faire autant des sports d'été que des sports d'hiver. C'est sûr qu'on est une ville relativement nautique avec la rivière Richelieu, le fleuve, on a les 103 îles. Fait que oui, c'est vraiment quelque chose qui attire beaucoup les jeunes de plus en plus. Puis l'effet d'avoir le Carré Royal, avoir beaucoup de restauration aussi, là, ça les aide à les amener là, dans le secteur.
C'est le fun d'avoir ce portrait-là. Alors, regardons devant. 2023, on est en janvier. Évidemment, c'est une nouvelle saison qui va commencer. Il y a des gens qui vont mettre leur maison en vente dans les prochaines semaines. On peut s'attendre à quoi?
Bien, je vous dirais, comme je vous dis actuellement, là, moi, j'ai ressenti un ralentissement, bien évidemment, avant les fêtes, c'est normal. Actuellement, je vous dirais, j'ai de l'activité sur nos propriétés de l'équipe. On a des vendus, on a des gens qui nous appellent pour afficher leur maison. Ils savent que normalement, à ce temps-ci de l'année, les gens commencent à magasiner pour avoir leur propriété
pour
en
l'été.
Début de l'été. Exactement. Fait que je pense que c'est tout à leur faveur là, de pouvoir commencer à penser à mettre leur propriété à vendre actuellement. Là, janvier, février, mars, normalement, c'est un bon secteur. Fait que pour les acheteurs qui nous écoutent ce midi, rester actif sur Centris, je pense que ça peut valoir la peine. Il y a des propriétés qui pop à tous les jours de la semaine. Fait que regardez ça. Puis pour les vendeurs, Si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit, là, c'est encore un bon temps malgré les taux. C'est quand même encore un bon temps.
Et le temps, demain matin, là, quelqu'un met sa maison en vente, il peut s'attendre à la vendre en combien de temps?
En général, là, de qu'est-ce que je vois, on parle à peu près un 30 à 45 jours. C'est sûr que...
Donc, un mois et demi, là, on peut penser qu'il y aura eu des acheteurs, des visiteurs d'abord, puis ensuite, éventuellement, des acheteurs...
Oui, exactement. C'est sûr, c'est du cas par cas. J'ai des propriétés qui restent une semaine, puis j'ai des propriétés que malheureusement, ça tarde un peu plus, mais en général, en moyenne, oui, là, ça peut prendre un mois et demi. Là.
Au cœur de l'activité plus intense, là, il y a 2 ans,
oui.
Ça prenait combien de temps à ce moment-là pour...
Vraiment pas long.
Vraiment pas long.
Normalement, là, de la façon qu'on procédait là, pour la plupart des courtiers, c'est qu'on affichait une maison un mercredi, jeudi. On commençait les visites le vendredi, samedi, dimanche avec des plages horaires de 15 minutes parce qu'on avait beaucoup trop un gros volume. Puis normalement, le lundi soir ou le mardi, on faisait la présentation des offres aux vendeurs. Puis bien entendu, ben, il prenait celle qui lui convenait le mieux, avec qui était le plus en sa faveur. Hein, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Puis là, c'est là qu'on constatait les possibilités de surenchère.
Oui, exactement.
Le milieu, de façon générale, dans l'immobilier, là, vous regardez comment la possibilité, par exemple, de construction résidentielle, est-ce que vous voyez que c'est nécessaire? Est-ce que vous sentez que c'est important de poursuivre le développement résidentiel?
Je pense que oui, parce qu'on a vraiment encore de la demande de gens de l'extérieur qui veulent s'en venir. Que, comme je vous disais tout à l'heure, on est quand même dans un beau périphérique. Comme on disait tout à l'heure, on a des beaux plans d'eau, on a des super de belles installations, on a des très beaux parcs, on est dans un périphérique de moins d'une heure de Montréal. Fait que je pense que c'est important de continuer à investir pour qu'on puisse accueillir encore les gens de l'extérieur, parce qu'on a de la place pour tout le monde, puis je pense que ça serait intéressant là, que tout le monde puisse se sentir chez soi. Puis on a une demande là, autant pour les maisons un petit peu plus âgées, besoin de rénovation, que de maisons plus récentes. Exactement.
Est-ce que les gens, quand ils vous arrivent, quand ils téléphonent puis qu'ils disent « moi, j'ai vu telle maison puis j'aimerais ça la visiter », ils ont vu ça sur Centris? Ils ont vu ça… Comment ils sont arrivés ici, finalement?
Je vous dirais que la plupart du temps, oui, effectivement, c'est Centris. Même si on fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est vraiment Centris qui reste quand même un point très important là, que les gens nous appellent. C'est rare que je vais avoir quelqu'un qui va m'appeler parce qu'il a vu ma pancarte devant une propriété. C'est sûr que ça peut aider les gens quand ils se promènent dans le secteur à se situer une maison, à avoir la pancarte.
Avoir le quartier, l'environnement.
Exactement. Mais ça reste que Centris est un point fort. Les gens connaissent cette plateforme-là beaucoup. Toutes mes acheteurs me disent qu'ils sont assez actifs là, sur la plateforme.
Michael Guérin, agent immobilier dans l'équipe Charbonneau-Chartrand. Merci beaucoup de cet échange très, très, très riche, très intéressant, là, qui nous permet de comprendre un peu dans notre environnement, dans l'immobilier.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Votre région vous tient à cœur. Vous êtes de ceux et celles qui désirent être à l'affût des dernières décisions de vos élus. Ne manquez pas votre rendez-vous mensuel, la chronique du préfet de la MRC, en compagnie de Sylvain Dupuis, tous les vendredis suivant le conseil de la MRC à 7h40, uniquement sur les ondes de CJSO. La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
Canac inaugure sa succursale de Contrecœur située au 40-10 rue des Patriotes. Première chaîne de quincaillerie de matériaux de construction indépendante issus de la région de Québec, Canac opère aujourd'hui une trentaine de succursales et emploie durant la saison forte plus de 4200 personnes. La succursale de Contrecœur, 32e de l'entreprise québécoise, a nécessité des investissements de l'ordre de 20 millions de dollars et engendré la création de 125 nouveaux emplois locaux.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Les 20 hits de la semaine au décompte Top 20.
Salut, ici Bob Péloquin. Voici le numéro 1 cette semaine. Numéro 1. I'm never gonna let it.
samedi 14h à CJSO 101.7 au rythme de la région.
Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Parce qu'un débat, ce n'est pas une chicane, mais bien une façon de faire avancer les choses. De retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors, on poursuit, cette fois, on poursuit avec Mario Fortin. Mario Fortin, que plusieurs d'entre vous connaissez, directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi et aussi très associé, porte-parole du chantier d'attraction de la main-d'œuvre, qui est un des défis. Avec Michael Guérin, on parlait de l'activité immobilière dans la région. Beaucoup de gens qui sont venus s'installer ici, ils nous soulignent le fait qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a eu beaucoup de premiers acheteurs. C'est une clientèle vraiment intéressante, évidemment, pour la région. On a appris cette semaine qu'on avait quand même atteint des chiffres intéressants dans la population. 53 000 dans la MRC au complet, 36 000 à Sorel-Tracy, ce qui est un nouveau jalon. Ça fait longtemps qu'on parle de population. Ça fait longtemps qu'on parle de l'importance de la population. Actuellement, en plus, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça prend une tournure encore plus particulière parce qu'il faut répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises, des commerces dans la région. La population, là, c'est important comme enjeu, là.
Effectivement. Tout d'abord, bonjour, Denis. Merci de l'invitation. Effectivement, quand on a vu ces chiffres-là cette semaine, bien, c'est sûr que tout le monde est bien heureux de ça. Moi, je suis allé fouiller un peu plus, puis ce qui attire mon attention de par mes occupations dans la vie, c'est la tranche d'âge 15-34 ans. Et dans toute la montée régie, on est dans le peloton des trois premiers qui ont accueilli le plus de 15-34 ans. Alors, c'est une excellente nouvelle. C'est la population active, en fait, qui vient s'installer chez nous. Fait que c'est des beaux chiffres, ça fait du bien. Il y a plusieurs efforts qui sont mis depuis des années pour attirer du monde. Là, est-ce que c'est à cause de nos efforts? Est-ce que c'est à cause de la pandémie? Est-ce que c'est à cause que les gens ont le goût de retourner dans les régions? Je dirais peu importe, mais continuons tout ça, puis on voit nos chiffres augmenter, alors c'est très intéressant.
Tout à fait, puis c'est l'enjeu de la population. Tu sais, pendant des années, on a comme stagné à 50 000 dans la MRC, ouais. En bas de 35 000 pour Sorel-Tracy. Ouais. Là, tout à coup, année après année, on rajoute des milliers, donc c'est très intéressant.
Les effets sont incroyables, ouais. parce que dans le sens contraire, les choses qui arrivent, tu sais, on le sait, les écoles de village, des fois, quand il n'y a plus assez de population, les églises, hein, tu peux en témoigner, et autres projets. Et là, quand notre population de MRC augmente, on peut espérer qu'il y a des gens qui viennent en ville, puis ça, c'est parfait. Il y a des gens qui habitent aussi les villes et villages autour. Alors ça, c'est drôlement intéressant. Ça donne de la vigueur à nos municipalités. Sans nouveaux citoyens, on ne peut pas y arriver.
Là. Non,
les
tout à fait.
Les gens vont se mobiliser dans les municipalités, mais ils n'y arriveront jamais s'il n'y a pas de nouveaux citoyens.
Tout à fait. Puis on s'entend pour dire que les commerces de la région, ça, ils l'ont eu dur au cours des années de pandémie, quand c'était plus intense, là, de savoir qu'il y a de la clientèle nouvelle qui s'approche. Tout à l'heure, Michael Guérin nous disait que les jeunes qui s'établissent ont tendance à acheter en proximité. Donc, il disait c'est aussi des clientèles, effectivement, pour les nouveaux, pour les commerces de la région. Puis, on sait aussi que même si les gens habitent dans les villages autour, il y a de fortes chances qu'ils viennent vivre, travailler, consommer, s'amuser, oh, oui. Oui, oui, tout l'aspect culturel aussi. Là. Puis la nature, et la nature.
La nature. Souvent, au Carrefour, on fait les séjours exploratoires, puis les gens nous disent, ce qui est intéressant, c'est que tu as un bout de ville puis un bout de nature ensemble. Fait que les gens s'installent pour ça. Mais tu parlais des commerces puis des activités culturelles. Évidemment que plus qu'on a de gens qui habitent ici, plus qu'on a d'amélioration dans tous les domaines. On parle de sport. Plus que de jeunes qui s'inscrivent, plus que d'équipes, plus que de compétitions. On parle de... On parle de restaurants, des nouveaux restaurants, mais on voit aussi différentes communautés s'établir ici.
Oui.
Mais c'est d'autres types de restauration. Après ça, on parle de plus de monde, plus d'offres de spectacles. C'est toujours plus de tout. Il faut juste que ça soit
c'est
bien.
C'est le nouveau slogan, ça, là.
Toujours plus de tout. Mais il faut que ça soit bien géré, puis je pense qu'on a la capacité de le gérer.
Ça, c'est la partie, moi, qui me tarabuste. Comment est-ce qu'on s'assure que... parce que les gens, nous, ils pleuvent pas, là, hein? On s'entend, il faut un peu structurer l'accueil. Il faut qu'il y ait des maisons à acheter, il faut qu'il y ait des logements à habiter, il faut qu'il y ait des places dans les CPE, il faut qu'il y ait des places dans les écoles, il faut qu'il y ait de l'activité culturelle. Avec le chantier, ce que vous avez dit, c'est cette job-là, elle appartient à tout le monde.
Oui.
Et est-ce qu'on est bien parti? Est-ce qu'on est bien structuré? Est-ce que tu sens, Mario, la mobilisation de tout le monde pour aller dans cette direction-là?
Bien, assurément que la mobilisation est belle puis est meilleure qu'elle ne l'a jamais été, à mon avis. On voit, là, on est sollicité de part et d'autre des gens qui disent « Hey, j'ai un projet, mais je ne veux pas le faire tout seul. J'ai le goût de le faire avec d'autres mondes. Pouvez-vous nous mettre en lien? » Fait que ça, c'est très bien. Je dirais qu'il y a des choses qui... tu as parlé de CPE. Ça, c'est pas parfait. T'sais.
Non.
Les CPE ici sont parfaits.
Les parfaits sont parfaits. Oui, c'est ça. Le problème, c'est pas leur existence, c'est les places qui manquent.
Ah, oui, parce qu'on a combien de personnes qui sont en démarche de recherche d'emploi, puis disent je fais une recherche d'emploi, mais mes enfants, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec.
Exact.
Des fois, c'est un frein. Puis ça, ben, ça dépasse la volonté des acteurs du milieu. T'sais. Ici, si on dit aux gens on veut d'autres places, tout le monde va dire oui, mais on le sait que ça vient de plus haut que ça.
Malgré tout, il y a quand même pas mal de décisions qui ont été prises à Québec pour augmenter le nombre de places, mais on a aussi une pénurie de main-d'œuvre chez les éducateurs et éducatrices de services de garde.
Ouais.
On doit concilier le besoin qui existe dans les familles pour ces services-là avec une certaine pénurie de main-d'œuvre dans ce milieu-là aussi. Là. C'est pas facile. Là.
Peut-être qu'on va être rendu à penser à d'autres modèles. Puis je sais qu'il y a des entreprises qui réfléchissent à l'idée d'avoir leur propre garderie en milieu de travail. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Puis c'est facile. Tu arrives le matin, tu déposes ton enfant, puis tu vas travailler, puis tu le reprends à la sortie. En tout cas, il va falloir faire autrement, sortir un peu de la boîte. Il ne faut pas tout le temps espérer avoir plus que le gouvernement nous donne plus parce qu'on sait que ça prend du temps. Mais il va falloir trouver des moyens rapides parce que ça, je pense que c'est un des principaux écueils là, dans notre façon d'intégrer les gens ici. Là,
tout à fait, parce que le centre de services scolaires de Sorel-Tracy est capable d'accueillir des élèves dans les écoles. Toutes les écoles, il y a de la place dans toutes les écoles actuellement. Là. Bout-là, à partir de 5 ans, 4 ans, même avec les maternelles 4 ans, il n'y a pas d'enjeu. Je comprends bien. On est plus en petite enfance là où il y a un enjeu. Si on regarde devant, là, on regarde un petit peu ce qu'il y a devant nous. Entre autres, la question de l'accueil de nouveaux arrivants de l'extérieur, des immigrants. On met en place des choses dans la région, on le sait. Est-ce que de ce côté-là, ça roule rondement? Est-ce qu'il y a une bonne participation? Quel regard vous posez là-dessus?
Bien, mon regard là, qui est très personnel, là, je parle au nom de personne, mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a une belle volonté. On a une organisation qui est mandatée pour le faire. Là. Je parle de l'Orientec, qui principalement là, est mandatée à faire de l'immigration, qui font du très bon travail. Mais reste qu'au final, moi, je dis que l'immigration, c'est pas l'affaire d'un individu ou d'un groupe d'individus, c'est l'affaire d'une collectivité complète. Fait que il faut...
L'accueil est plus large que le simple fait d'avoir un logement pour accueillir une famille. Là. C'est beaucoup plus large que ça.
Il faut être accueillant, il faut être content d'y voir ces gens-là, comme on devrait être content de voir tout le monde. Si tout le monde était de bonne humeur, ça serait déjà un plus pour l'humanité. C'est ça, l'accueil est important. Puis les bénéfices qu'on en retire de cet accueil-là, je vois des petits commerces qui commencent à pousser, là, on voit sur Fizet, africain, puis il y en a aussi.
Avec des produits plus oui, tout à fait, des produits étrangers, oui, tout à fait.
C'est vraiment intéressant,
tout à fait.
Ça.
Oui, je suis avec Mario Fortin, là, le directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi. Parce que je sais que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup à améliorer les choses, à viser, à faire que les choses aillent toujours mieux. Y a-t-il des étapes qu'on a besoin de traverser collectivement, là? Pas que le chantier avec l'ensemble des partenaires. T'sais. Tu l'as dit, je pense qu'on est bien parti. Les choses ont l'air de bien aller. Qu'est-ce qu'on doit améliorer?
Tu sais que je réfléchis beaucoup, tu l'as dit, puis je suis extrêmement optimiste aussi.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Je vois que les choses s'améliorent depuis quelque temps. J'ai confiance en nous collectivement. Moi, je pense que une des choses qu'il faut améliorer, c'est l'aspect visuel de notre ville.
Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire?
Le centre-ville doit être davantage accueillant. Le centre-ville, pour moi, c'est le cœur d'une ville. Il n'est pas parfait, notre centre-ville. Ça, c'est clair. Il y a du temps à mettre dessus, de l'énergie, de l'argent aussi. Ça, c'est clair pour moi. Il y a des travaux qui sont projetés. Là, je ne fais pas le procès si c'est bien ou c'est mal pour les commerçants, mais quand j'ai vu les maquettes, j'ai trouvé ça beau. Puis du beau, on en a besoin. Puis les gens, ils s'installent où c'est beau.
Tout à fait.
Alors, nos possibilités en améliorant notre centre-ville, d'attirer aussi d'autres mondes, une faune qui est peut-être un peu plus urbaine. Tu sais, je fais souvent référence à l'entreprise qui s'est installée dans l'ancien Presse Café, là, dont malheureusement, j'oublie le nom, là, Descartes,
oui.
Je pense. Tu sais, ça, c'est-tu fantastique? Le nombre de jobs au pied carré, il n'y a pas une usine qui va battre ça. T'sais. Puis ces gens-là participent à la vie du centre-ville, sont dans les restaurants le midi. Éventuellement, il va peut-être ces gens-là avoir le goût d'avoir un condo au centre-ville. Puis puis là, après ça, qu'est-ce qu'il va avoir? Ben, d'autres restaurants, puis peut-être une SAQ.
La roue va tourner.
Il ne faut plus dire SAQ parce que là, on limite nos consommations, semble-t-il. Mais vous savez, tu vas dans un restaurant qui ne vend pas d'alcool, ben là, tu passes à SAQ, avoir ta petite épicerie au centre-ville. On est là-dedans, là, on n'est pas loin d'atteindre ça. Puis ça fait des milieux qui sont attrayant là, toutes les générations,
mais
particulièrement les jeunes professionnels.
Mais cette volonté-là, je pense, elle est un peu partout, là, d'améliorer l'image. Pas l'image qu'on veut améliorer, c'est la réalité. On veut que ce soit plus beau,
confort,
plus agréable, le confort, exactement.
T'as le goût de voir des arbres au centre-ville.
Un espace de diversité aussi, là, des choses nouvelles qu'on n'a jamais vues à Sorel-Tracy. Quand on les voit apparaître, on a toujours le sentiment « Ah, regardons ça, c'est rendu chez nous ». Ouais. Je pense à un commerce en particulier qui va déménager bientôt, qui va faire qu'on va avoir plus de pain. Ben, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Là. Je pense que les gens vont réagir positivement à des choses comme celle-là.
Oui, puis ça fait de la vie. Puis en dehors du fait que tu vas acheter ton pain, tu croises des gens, tu es au centre-ville, il y a une dynamique qui se crée, qui rend ta ville intéressante. Puis quand tu es un touriste, puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. T'sais, on voit les chiffres là, d'augmentation de population, par exemple au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie. Si vous êtes allé là dans les dernières années, tu sais, des petits commerces...
C'est un autre univers de ce que c'était il y a 15 ans. Là.
Ben, c'est ça. Fait que ça passe un peu par le tourisme. Mais ils ont eu beaucoup de touristes parce qu'il y avait de quoi offrir, parce qu'il était intéressant aussi, comme sont recevants les gens là-bas. Bien, c'est un modèle qui est facile à reproduire, puis on est capable, on a tout ce qu'il faut ici pour attirer des gens, autant qu'ils viennent nous visiter qu'ils viennent s'installer.
Moi, je pense qu'effectivement, ce qu'on a appris au cours des dernières années, c'est de regarder les choses de façon positive, de voir les pas qu'on a franchis, là, les étapes qu'on a franchies ensemble, puis d'imaginer les prochaines. Et ça va être intéressant de voir comment ça va se traduire. Puis c'est sûr qu'à 53 000 ou 36 000, la Sorel-Tracy, c'est pas encore assez. Il faut qu'on développe là-dessus. Mario Fortin, du chantier d'attraction de la main-d'œuvre, directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Hey, merci de l'invitation.
CJSO 101.7 salue ses précieux collaborateurs et collaboratrices, dont Mélanie Raté-Bisaillon.
Avec nos engagements pour la société, on se dit qu'on se doit d'être performant, puis d'y aller, puis de continuer, mais je trouve que des fois, on manque d'écoute envers soi, puis ça fait que ça crée un décalage entre comment on se sent réellement versus ce qu'on montre aux gens. Des fois, j'ai l'impression qu'on a de la misère à se montrer dans notre vulnérabilité.
Mélanie Raté-Bisaillon réfléchit avec nous à haute voix dans Yacht ces matins, à tous les mardis, 7h15.
Yeah!
CJSO 101.7.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Chez Meublerie-Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
Canac est maintenant ouvert à contre-cœur. Venez découvrir votre nouvelle quincaillerie où tout a été pensé pour faciliter votre expérience de magasinage. Que ce soit pour vos projets de rénovation ou de construction, chez Canac, vous trouverez tout. Et vous serez bien servi. Passez-nous voir au nouveau Canac de contre-cœur, 40 rue des Patriotes.
Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête Première avec Denis Marion.
J'ai envie qu'on s'amuse un peu et qu'on regarde aussi, on l'a fait depuis tout à l'heure avec les deux autres invités, on a vu les avantages de la région, on a évoqué plusieurs aspects extrêmement intéressants, mais là actuellement on est en plein hiver. Et l'hiver, dans une certaine mesure, jouit d'une mauvaise réputation. De façon générale, on parle de froid, de neige, de verglas, de journées courtes, de manque de lumière, de soleil blafard, de conditions routières épouvantables, de lassitude en cours d'année et de soulagement quand enfin la neige fond et que les feuilles commencent à pousser. Bref, l'hiver, c'est une contrainte, puis souvent, c'est la cause d'une petite déprime, mais c'est pas une raison pour qu'on en reste là. J'accueille Benoît Simard, qui est le directeur des loisirs de la ville de Sorel-Tracy. Puis ensemble, bonjour Benoît.
Bonjour Denis.
On va regarder l'hiver sous un autre jour.
Ouais.
Parce que c'est une des quatre saisons. On ne peut pas juste passer par-dessus l'hiver comme si c'était uniquement quelque chose de pas le fun. C'est juste parce que depuis le début de la semaine, tout le monde évoque le fait que là, c'est difficile, c'est l'hiver qui est devant nous, puis là, on a plusieurs semaines, etc. Or, je pense que tu es quelqu'un qui aime l'hiver.
Bien, évidemment, étant des gens qui résident dans le nord du continent, je pense qu'il faut faire avec. Ça fait que nécessairement, quand on fait avec, on peut sortir beaucoup davantage. Heureusement, il existe du plein air. Le plein air, ça se fait quatre saisons. Puis l'hiver, c'est une belle période, justement, pour l'en faire.
Puis tu profites? T'en profites, toi?
Oui, définitivement. L'activité, la beauté avec le plein air, c'est que c'est pas obligé de s'organiser. Ça peut se faire sur le champ, ça peut s'organiser en famille, ça peut se faire aussi avec son voisin. C'est-à-dire que finalement, tu peux socialiser comme tu peux le faire de façon individuelle à l'heure, à la journée, au moment, conditions climatiques ou pas. On le sait, il y en a des athlètes qui veulent s'entraîner, qui courent à toutes les conditions, veut, veut pas. Eux autres, ils en ont besoin, mais d'autres peuvent se dire, bon, bien, aujourd'hui, on a des belles conditions de neige ou demain... Il annonce de mauvaises conditions, mais il y a toutes sortes d'activités possibles en plein air avec l'hiver.
Benoît, il y a de plus en plus les villes du Nord, un peu partout sur la planète, commencent à réfléchir à ce qu'on puisse vivre avec l'hiver, c'est-à-dire qu'on fasse de l'hiver quelque chose de positif dans nos vies. Il y a toutes sortes d'efforts qui sont faits. Bon, évidemment, ici, à Sorel-Tracy, vous avez des infrastructures que vous offrez aux citoyens là, pour qu'ils puissent justement pratiquer du plein air, pratiquer des activités. Il y a un effort. Quand vous regardez devant vous au service des loisirs de Sorel-Tracy puis que vous avez l'hiver qui s'en vient, vous pensez comment? Comment vous voyez ce que vous voulez offrir aux gens?
Bien, c'est sûr que tout ce qui est dans notre quotidien, là, le déplacement actif, à titre d'exemple. Bon, on est dans une ville pour laquelle l'été, on sait que le vélo est prédominant, mais il reste que l'hiver et peut être utilisé aussi la pratique du vélo. Les pistes sont peut-être pas super aménagées, mais le fat bike est populaire. Pourquoi? Bien, justement parce qu'on peut s'y déplacer. On prépare les plateaux d'activité, on change de saison. On s'entend que les patinoires, c'est très populaire. Alors, dans les différents quartiers, on les retrouve. Même que les citoyens s'organisent pour faire eux-mêmes leur propre patinoire à travers nos parcs. On appelle ça les surfaces glacées communautaires. Là. Bien, c'est une démonstration comme quoi les gens veulent tourner avantage de l'hiver, justement pour s'y retrouver, socialiser entre voisins, pour pouvoir justement échanger, s'amuser en jouant ou pas au hockey. Là. Bref, comme tu le sais savoir dans les pays nordiques, en Scandinavie, pour ne pas le nommer, ils se déplacent en ski de fond, là. Je veux dire, bon, c'est peut-être pas notre pratique courante chez nous, mais on est doté de pistes de ski de fond aussi. Ne serait-ce que des pistes rustiques, on en a avec en collaboration avec la municipalité de Sainte-Victoire, 25 km de pistes de ski de fond. Ne serait-ce que le parc régional des Grèves qu'on a cité précédemment dans l'émission, où on retrouve aussi des super sentiers de ski de fond damés avec et de la raquette. Puis aussi, la sauvagine, ben, même si elle n'est pas officiellement entretenue, annoncée ou quoi que ce soit, il suffit d'aller marcher pour voir qu'il y a bien des gens qui passent avant nous.
Ah oui, oui.
Donc, la pratique s'y fait, elle est favorable pour la santé, ça crée de l'endorphine. Puis ben là, je suis pas dans le domaine de la santé, mais le monde sait que l'endorphine, c'est une hormone qui crée de bonheur. Fait que quand nous, en loisir, on dit on est des agents du bonheur, ben quelque part, plus on encourage la pratique du plein air, plus on a des installations de plein air pour faire en sorte que les gens bougent, ben plus ils créent de l'endorphine, puis plus ils sont heureux d'avoir une qualité de vie qui représente leurs besoins.
Oui, tout à fait. Je veux pas parler de moi, là, mais je vais avoir une seconde pour dire que la pandémie a changé beaucoup de choses dans ma vie à moi. Parce qu'évidemment, ne pouvant plus sortir, on était confinés là, pendant plusieurs mois, a fallu redécouvrir nos environnements immédiats. Il a fallu être capable de profiter de ce qu'il y avait autour de nous. Est-ce que tu penses que ça va avoir été un moment important dans la réappropriation du territoire?
Clairement. La pandémie nous a mis dans le visage que le plein air était définitivement le goût du jour. Il y avait déjà des initiatives de la part du gouvernement du Québec, ne serait-ce que par les différents ministères, de favoriser la pratique du plein air. C'est un axe de développement à venir. Alors, soyons-en avertis, les producteurs ou les promoteurs ou les gestionnaires de sites de plein air, il y aura de plus en plus de programmes et de l'argent pour supporter les installations de plein air. Donc, la COVID nous a clairement démontré, puis on l'a vu avec le parc régional des Grèves, là, le stationnement débordait à tous les fins de semaine, voire même la semaine, que, étant donné que c'était une des seules activités qui était autorisée sur le plan sanitaire, bien évidemment, c'est là qu'on a vu que la popularité a pris une vitesse supplémentaire. Alors, ça a été quasiment aidant pour les fanatiques, ou en tout cas les gestionnaires ou les promoteurs de plein air, que cet aspect-là de COVID, ça permet aussi aux gens de croiser, de socialiser à l'extérieur sans se contaminer. Alors oui, ça, c'est garanti.
Est-ce que tu penses qu'on va reculer? Est-ce que tu penses que les gens vont... Une fois qu'ils ont eu la piqûre, là, puis là, je parle pour moi, là, moi, j'ai pas envie de revenir en arrière, puis j'ai envie de continuer à marcher mes 5 km par jour, puis j'ai envie de ressortir dehors, puis j'ai envie de continuer à aimer l'hiver, c'est pour ça qu'on en parle là.
Oui.
Mais penses-tu que je suis pas tout seul comme ça?
Bien, clairement, c'est... Puis il y a des courants de plus en plus présents, ne serait-ce que la notion du sylvothérapie, là, la notion de bain de forêt, là, c'est une tendance, on voit ça dans les médias de plus en plus, mais... Il y a un fond
on traduit toujours nos affaires par des tendances. Hein,
oui, sauf que c'est des tendances sociales. Hein, c'est l'observation d'une société que je suis en mesure de vous parler. Puis ce phénomène-là, c'est pas une invention de mon esprit. Là. Au Japon, c'était étudié, ça a été documenté. Donc,
c'est pas prescrit d'ailleurs là-bas?
Je pense qu'ils vont jusque-là, effectivement. Donc, si on dit que c'est important de faire un câlin à un arbre, je veux dire, là, on pousse la limite, là, il y a du monde qui va peut-être rire de ça, mais il reste qu'il y a des bienfaits associés à ça.
Je m'y attendais pas celle-là. Là.
Non, mais je veux dire, la sylvothérapie, ça serait ça. Donc, les parcs municipaux, ils sont pas tous à vocation plein air, sauf que l'importance de l'arbre dans le parc.
La nature, là, l'idée
voilà,
de la nature.
La connexion, elle devient importante. Alors, moi, je pense pas qu'il y ait un recul. Je pense qu'au contraire, il va y avoir une croissance qui a été hyper accélérée avec la COVID, mais qui va se poursuivre sûrement dans les temps futurs.
D'où l'intérêt qu'on a à ne pas faire de coupure avec l'hiver. C'est-à-dire, il faut que l'hiver fasse partie de notre continuum annuel. Là.
Tout à fait. Oui, l'hiver, évidemment, on doit faire face à des conditions climatiques qui sont variables. Bien, on s'adapte, mais c'est ça la beauté de l'hiver, c'est que c'est un peu plus improvisé. Ça. On doit fonctionner en fonction de conditions du jour. Fait que nécessairement, ça rend la vie moins monotone. Là.
Tout à fait. Mais ceci dit, quand il fait 38 degrés avec 92% d'humidité au mois de juillet, on doit aussi vivre avec la température. Donc, on s'adapte.
Oui,
et on continue à vivre. Là.
Oui, exactement. L'objectif pour, en tout cas, une municipalité, c'est sûr que c'est de donner l'accès le plus possible, le plus d'accès possible, que ce soit physique, que ce soit économique, que ce soit psychologique. Bien, les accès au plein air vont faire en sorte que ça va créer un bénéfice pour la population. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Est-ce que tu penses que d'autres aspects autour de l'hiver vont être développés éventuellement? Tu sais... Je voyais en Europe récemment, quand je suis arrivé au début de décembre, il faisait moins 15. Et j'ai eu la surprise de ma vie de voir les gens assis sur les terrasses avec des petits réchauds au gaz. Là.
Ouais.
Et je me disais, waouh, quand même, nous, on est supposé vivre à ces températures-là, puis on n'a pas développé ce genre de trucs-là. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, notre lien à l'hiver va faire qu'on va vouloir être dehors plus encore?
Ben, j'aimerais tellement être capable de répondre. Sauf que là, j'ai pas de boule de cristal. C'est sûr et certain que si on vit des belles expériences en plein air, tantôt je parlais d'endorphine, où vous le savez, quand vous marchez dans un sentier, vous allez saluer la personne.
Oui.
Hein? Parce qu'on dirait qu'on se sent tout ça. Même en VTT, là, on va saluer l'autre parce qu'on se croise dans les
qu'on
sentiers.
Qu'on le connaisse ou pas.
Oui, c'est ça. Sur un trottoir, quand on marche dans la ville, on croise tellement de monde qu'on ne salue pas tout le monde. Hein. Fait qu'il y a un effet quand même qui est quand même recherché puis positif dans la notion de la pratique du plein air. Et souvent, quand on arrive à la maison, on a un effet d'euphorie. On est comme content, on est satisfait, on est joue rouge. Fait que là, finalement, on a comme des bénéfices tellement positifs qu'on veut le recréer. Notre système nous parle dans ce temps-là. Est-ce que ça va faire en sorte qu'on va être...
Jusque-là.
On va sortir de l'ordinaire, on va dire, on va s'en sur une terrasse au centre-ville, justement, parce qu'on pourrait avoir une ambiance particulière. Peut-être. Ça pourrait être une avenue.
On le vit, évidemment, comme t'as raison, la plupart d'entre nous, on a participé à des activités de carnaval. Il y a eu, tu sais, il y a à ce moment-là, de façon plus spécifique, pendant une période de temps,
des événements
qui nous amènent et ça fait un peu exceptionnel. La question, ça va être, est-ce qu'on est capable de faire ça sur une, tu sais, sur une, dans une, dans notre vie quotidienne et non pas simplement à l'occasion d'événements?
Oui, bien, il y a l'élément qui est une offre de service n'est pas juste basée sur une activité. Elle est importante, elle est essentielle, mais elle se fait aussi sous forme de pratique libre. Rappelons-nous, il y a certaines générations précédentes qui n'avaient pas de réseaux sociaux, peut-être pas d'ordinateur, et ainsi de suite. Les gens étaient souvent dehors.
Puis bien sûr.
Combien de fois on entend les critiques de dire « les jeunes sont où? » Bien, là, aujourd'hui, il y a des programmes. On entend parler d'un défi château de neige. Là. Alors, l'idée, c'est que les gens s'inscrivent. Il y a un site Internet pour ça. Puis les gens, partout au Québec, là, ils peuvent s'inscrire pour faire un défi de château de neige. Ils le font où? Pas dans la cour arrière, ils le font en avant. Donc, les gens vont croiser des gens qui marchent, mais ils vont permettre de socialiser. Il y a comme un retour un peu à travers ça du balancier. Alors, l'événement, oui, mais il y a aussi le fait qu'il y a des initiatives pour encourager le fait de sortir dehors, profiter des activités hivernales telles que le château, le défi château de neige que je vous parle, et ou d'activités de rallye bottine comme le Biophore organise à Regard sur le fleuve, où évidemment on parlait d'un carnaval, on sait bien que le jib s'en vient.
Oui, c'est ça, c'est à ça que je pensais.
Oui, oui, évidemment, fait que cet événement-là ne sera pas négligeable sur un site de la Place des loisirs. Si vous passez, vous allez déjà voir que les montagnes de neige commencent à se dessiner sérieusement déjà. Alors, même l'observatoire des étoiles aussi qui va s'en venir. Alors, c'est des pratiques libres qui font en sorte qu'on a l'occasion de sortir, de socialiser, mais aussi de faire d'activités quand on veut si elle n'est pas organisée.
Oui, tout à fait.
Moi, je pense que ces initiatives-là sont de plus en plus courantes parce qu'évidemment, la facilité de rester assis dans son salon puis consulter une tempête de neige sur Internet ou sur un réseau social, ben c'est pas la même expérience, on s'entend. Là.
Tout à fait. Non, les photos de tempête de neige ou les photos après tempête de neige sur Facebook, c'est pas l'expérience la plus vivante.
Il me semble que c'est plus fun de raconter quelque chose qu'on a vécu que compter qu'est-ce que d'autres vivent.
Oui, tout à fait. Je lisais sur l'hiver, évidemment, un peu avant qu'on se voit, puis je voyais qu'au 19e siècle, l'hiver au Québec, c'était dans les fêtes la vraie période des vacances.
Ah.
Parce que, évidemment, sur la Terre, on commence à travailler au printemps puis on termine à l'automne là, avec les récoltes.
Oui, c'est sûr, ben oui.
Et donc, l'hiver, c'était la période de repos, entre guillemets, où, évidemment, comme de raison pour les hommes, beaucoup de partir bûcher. Là, il y avait quand même cette activité-là. Mais il y avait cette espèce de... Puis c'est pas pour rien, probablement, que les fêtes de fin d'année, que Noël, jour de l'an, avait autant d'importance au Québec parce que c'était le début du repos. Donc, il y avait un lien avec l'hiver qui était très différent de ce que nous, on a développé avec notre vie moderne,
oui,
où on peut se promener partout en voiture malgré la température, ce qui n'était,
oui,
pas le cas. Jusqu'en 1947, à Monsieurville, la seule façon de se rendre dans le village, c'était par le train. L'hiver,
yes. Okay.
Les routes n'étaient pas déneigées. Évidemment, il n'y avait pas autant de voitures qu'aujourd'hui. Là. Mais c'est pas loin, là, 1947. C'est pas si loin que ça.
Non,
là.
Non, c'est très rapide comme évolution là, si on compare par rapport là, aux centaines d'années précédentes. Là.
C'est ça.
Non, effectivement, il y avait peut-être une époque où c'était plus la pause, c'était plus le début. Bon, on peut se reposer. Maintenant, avec tout ce que tu mentionnes, c'est un élément qui est non négligeable. Pour ceux, peut-être, qui voudraient s'initier, moi, c'est un élément que je voulais juste faire valoir. Il est possible de louer des équipements aussi. Là.
Oui.
Aller au cégep ou aller au parc régional des Grèves, il y a des équipements possibles à louer.
Excellent. Benoît Simard, directeur des loisirs de la ville de Sorel-Tracy, merci pour cette conversation. Merci d'avoir été avec nous pour tête première pour l'édition du 19 février à CJSO 101.7. Bonne semaine, tout le monde. Bonne journée.